Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. Ça va ce début de semaine?
Bah écoute, il fait beau, il fait même trop chaud.
On va pas se plaindre, hein. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, bah en fait, les Norbert. Norbert,
comme le chef, Norbert Harrer.
Oui, exactement. Oui. J'ai pensé à lui en écrivant. C'est peut-être des recettes qu'il aurait pu, qu'il pourrait nous montrer aussi. Voilà, dans ses émissions télévisées. Alors, ce soir, je vous ai trouvé donc des recettes. Je les ai piquées dans un bouquin auquel je suis abonnée, dont je tairai le nom, puisqu'on ne fait pas de pub. Voilà, je vais vous donner encore des astuces, bien sûr. Et puis Nathalie interviendra sur les ingrédients, sur certains ingrédients. Vous allez voir, on va parler de coquillages
et
crustacés. C'est une préparation aux vacances. Alors, voyons ensemble le menu de ce soir. Donc, on va faire des mini clafoutis primeurs. Pour cela, vous aurez besoin de 400 g de petites pommes de terre primeurs. Alors, on dit primeurs ou on dit petites pommes de terre nouvelles. Tout à fait. En ce moment, vous pouvez y aller récoltes si vous avez la chance de manger celles de l'île de Ré ou de Noirmoutier. Elles sont excellentes parce que, comme le sel n'est pas très trop loin, elles sont déjà plus ou moins salées. Voilà, étant, ça passe par là. Voilà, moi j'avoue qu'il y a des fois quand je cherche un peu, je trouve et elles sont très très bonnes. Voilà.
Ouais, j'essaie.
Voilà, essayez, ils ont un goût particulier. Alors là, bon, on ne prendra pas celle de l'île de Ré, hein, on prendra celle des petites pommes de terre primeurs. On va avoir besoin de 12 petites asperges vertes, on est encore dans la saison, donc on peut les trouver. De 6 tomates confites, donc ça c'est dans des bocaux, hein, tout simplement.
Oui, c'est
hein.
Ça.
Vous prenez pas la tête à faire les tomates confites parce que c'est très très long.
Ouais.
Et puis de toute manière, les tomates ne sont pas encore sorties. Elles sont en fleurs, enfin pour moi perso, mais elles ne sont pas encore sorties. Celles qui sont sur le marché, c'est de la serre, voilà.
Oui, bah oui, j'imagine.
Voilà, ou peut-être de l'Espagne, mais dans ces cas-là, ça serait très 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 en avance. Mm-hmm. Mais voilà. Donc 3 œufs et puis 20 centilitres de crème fraîche liquide, 50 g de farine, du sel et du poivre. Côté matériel, on aura besoin d'un couteau, d'un faitou, de 2 saladiers, d'une passoire, d'un fouet, de 6 moules individuelles. Et puis pour le plat principal, c'est plutôt une grosse salade. Ça sera la salade de pommes de terre primeur, donc pommes de terre nouvelles, et des coquillages. Et coquillages, pour ça, vous aurez besoin de 500 g de pommes de terre primeur, 10 centilitres de vin blanc, 3 branches de céleri, 500 g de coquillages. Alors moi, j'ai mis de la moule, de la palourde, de la coque,
avec
de la
les coquilles.
Alors, ça sera dans la description.
Oui,
avec
mais pour acheter, il faut...
Oui, c'est mieux avec la coquille.
Voilà, ok.
Alors, vous pouvez, effectivement, t'as raison, si vous ne trouvez pas, tu me disais, je te sens arriver. C'est surgelé, c'est ça?
Ça peut.
Oui, ben tu peux, mais les coquilles serviront, en fin de compte, pour la déco. Voilà, tout
d'accord.
Simplement. Donc oui, et c'est pour ça que c'est un peu long cette recette, parce qu'il faut décortiquer. Voilà, donc 500 g de coquillages. Donc moi j'ai choisi, parce que c'était la recette qui était comme ça, 200 g de crevettes cuites, à décortiquer bien évidemment aussi, 2 échalotes, un oignon, un citron, un filet d'huile d'olive et une cuillère à café de curry et 2 branches de persil plat. Et du sel et du poivre bien évidemment, attention pas trop de sel non
ouais.
Plus. Mais vous verrez, on mettra juste une pointe de sel de fleur à la fin de la recette. Et puis, côté matériel, il faudra 2 faitous, un couteau, une passoire et une râpe. Et évidemment, un saladier que j'ai oublié, mais voilà, c'est plutôt logique. Ça, c'est des grosses choses, hein, les petites choses à côté.
Oui, on les a dans la cuisine.
Tous les jours. C'est pour éviter que vous cavaliez quand vous préparez la recette en fin de compte. Alors, ensuite, on va finir par un clafouillis, mais cette fois-ci aux abricots et aux amandes. Donc, c'est aussi la saison des abricots. Et je crois que Nathalie nous dira quelque chose sur l'abricot tout à l'heure. Elle a préparé un petit discours sur l'abricot. 500 g d'abricot, 30 g de beurre, 40 centilitres de lait, 100 g de farine, 100 g de sucre de canne, 30 g de poudre d'amande en poudre, ou de poudre d'amande, c'est comme on veut, hein, les deux c'est les mêmes, hein, et 30 g d'amande effilée. Et puis côté matériel, là on aura besoin d'une passoire, d'un couteau, d'une casserole, d'un saladier et d'un fouet et d'un plat à gratin, bien évidemment. Alors avant de commencer toutes nos explications, moi je vous propose déjà une première pause et on se retrouve pour les explications des différentes recettes. A tout de suite.
Hello, c'est Nuit Incolore sur Infini Radio. Et c'est basique comme ça? Tu peux laisser le « et c'est basique » comme ça.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister, mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et nous allons commencer par notre entrée et savoir plutôt les mini clafoutis pris beurre. Mais avant Nathalie, l'origine de la pomme de terre.
Eh ouais, la fameuse pomme de terre, la patate. Alors l'histoire de la pomme de terre, elle commence avec celle des Amérindiens qui vivaient il y a plus de 10 000 ans dans la zone côtière de l'actuel Pérou et au sud-ouest de l'Amérique latine. Au XVIe siècle, à l'arrivée des conquistadors, lors de la colonisation espagnole des Amériques, la pomme de terre avec le maïs est la base de l'alimentation de l'ensemble de l'Empire Inca et des populations vivant dans les régions voisines. Après leur découverte par les conquistadors, les tubercules sont embarqués à bord des galions comme vivres de soute et les explorateurs du Nouveau Monde les débarquent dans les ports d'Espagne et d'ailleurs, et de là, la pomme de terre part à la conquête de l'Europe et du monde. objet de curiosité des botanistes et des rois, remède à certaines maladies pour les ecclésiastiques, elle n'est pas tout de suite considérée comme pouvant servir à l'alimentation des humains. Dans le sud de l'Europe, elle circule de couvent en couvent, d'Espagne en Italie, appelée Taratufi ou Tartufoli dans les Alpes italiennes. Piémont, Sardaigne, Savoie, en Savoie, on l'appelle la cartoufle, puis vers l'Autriche, d'Angleterre vers l'Irlande et les Flandres. Mais il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour qu'elle commence à être sporadiquement cultivée. Sa conquête du territoire européen s'accélère alors, poussée dans les campagnes par les famines et les guerres. Et pour l'aider dans cette conquête, la diversité allélique naturelle lui permet de rapidement adapter son horloge circadienne aux saisons et au climat des latitudes du vieux continent. Au XVIIIe siècle, dans tout le vieux continent jusqu'aux confins de la Russie, un véritable engouement se développe pour ce tubercule facile à cultiver et à conserver et qui permet à l'Europe d'espérer la fin des famines. La culture de la pomme de terre, en libérant le peuple des disettes, renforce les États, nourrit leurs soldats et accompagne leurs armées dans les conquêtes plus lointaines. Au XIXe siècle, la force et la stabilité alimentaire acquises grâce à la pomme de terre offrent aux empires coloniaux la possibilité de s'étendre et de dominer une grande partie du monde. La pomme de terre devient le principal soutien de la révolution industrielle, offrant une nourriture économique aux ouvriers toujours plus nombreux à se presser dans les villes au plus près des usines.
Merci Nathalie pour ces informations. Donc c'est Espagne, hein. Espagne, Italie, elle a fait du chemin, hein, la petite pomme de terre.
Elle vient du Pérou, des Incas, oh, ouais. Tout dépend. Ouais.
Voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien. Alors on voit ensemble cette recette. Alors je vous rappelle les ingrédients. Donc 400 g de pommes de terre primeur, 12 petites asperges vertes, 6 tomates confites, 3 œufs, 20 cl de crème fraîche liquide, 50 g de farine, du sel, du poivre. Et puis il vous faudra 6 petits moules individuels. Un couteau, un faitout, deux saladiers, une passoire et un fouet. Il faut compter à peu près 20 minutes de préparation et 40 minutes pour la cuisson. Alors on va commencer déjà par préchauffer justement le four au thermostat 6, donc 180 degrés. Et puis on va retirer l'étalon des asperges. Bon, évidemment, vous allez les laver, hein, bien évidemment. Retirer l'étalon des asperges, gratter un petit peu les tiges gentiment, si c'est nécessaire. Bien souvent, c'est pas forcément nécessaire
pour les vertes.
Ouais. Mais
c'est
voilà,
plutôt donc les
voilà, faites-le si c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai dit si c'est nécessaire. On les rince, bien évidemment, et puis dans un faitout porté à ébullition, on va les plonger pour les cuire 5 minutes. Donc on attend que l'eau soit frémissante. Une fois que l'eau est frémissante, on les met dans l'eau frémissante et on attend 5 minutes. Quand les 5 minutes sont passées, on va les égoutter dans une passoire, bien évidemment, et on va les mettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc ça, c'est important parce que elles vont, comme c'est un légume qui est quand même fragile, il faut tout de suite arrêter la cuisson. Voilà, donc l'eau froide, l'eau glacée, c'est bien. Si vous avez de l'eau avec quelques glaçons, c'est aussi bien. Et l'eau, vous la jetez pas, vous la mettrez pour arroser vos plantes, ça sera oui. Tout aussi bien. Voilà, préserver l'eau, c'est important. Donc ensuite, on va réserver et puis on va tronçonner, on va réserver juste les pointes. Et on va tronçonner les tiges. Alors, pas trop grosses, hein, parce qu'en général, les petites asperges vertes, elles font 10 cm. Vous les coupez de façon que les pointes rentrent et les tiges rentrent dans votre moule, en fin de compte. Donc, ça fait à peu près 5 cm. Hein. Donc si elles font 10, ben, vous coupez la moitié, et puis voilà. Sinon, vous coupez en plusieurs morceaux la tige. Voilà, vous réservez, vous pouvez aussi, donc plutôt que d'arroser vos plantes, vous pouvez aussi garder l'eau, puisqu'elle est toute chaude. Et ben, on peut cuire les pommes de terre primeur dans l'eau. Donc là, on les met dans l'eau, même si elle est encore chaude, les pommes de terre, hein, que vous aurez évidemment préalablement lavé, mais non pelé, parce que ça sert strictement à rien, puisque c'est des nouvelles. Si vous les lavez bien, on va les manger avec, en robe des chambres. C'est super bon, voilà, ça fait moins de travail. Et vous allez laisser cuire donc à l'eau frémissante 10 minutes. Et puis après, donc la reprise de l'ébullition, donc vous comptez bien 10 minutes après la reprise. Une fois que c'est cuit, au bout de 10 minutes d'ébullition, ben vous allez les égoutter, bien évidemment. Et puis dans un saladier, vous allez battre au fouet les œufs et puis y ajouter la farine, le poivre et le sel. Et quand tout est bien homogène et bien qu'il n'y a pas de grumeaux, vous allez ensuite incorporer la crème. Une fois que vous avez... Alors, vous avez deux solutions. Ou vous épluchez vos pommes de terre parce que ben il y en a qui ça plaît pas. Moi, j'en connais un à la maison, il faut qu'ils les épluchent. Voilà. Ou alors, vous les laissez comme ça et vous les coupez en petits dés. De façon à ce que, encore une fois, c'est des mini clafoutis.
Oui.
Donc, il faut que ça rentre dans votre four. Et il faut que ça soit en bouche, que ce soit assez agréable. Donc vous les coupez en dés, ainsi que les tomates confites. Une fois que vous avez fait ça, vous allez disposer au fond des moules individuels les morceaux d'asperges. Donc on va parler là des tiges, de la pomme de terre, de la tomate, et vous allez recouvrir vous allez recouvrir donc de tous ces petits légumes, donc pommes de terre, tomates et asperges, de votre préparation de clafoutis jusqu'en haut. Hein, des moules, et vous allez terminer par une pointe d'asperge, par quelques pointes d'asperge. Donc là, si vous en avez 12, il y en a pour 10, pour 6, bah, c'est deux pointes d'asperge par mini clafoutis. Et puis bah, vous allez enfourner pendant 20 minutes et servir chaud ou froid, c'est comme vous voulez, avec un petit coulis de tomates. Ça peut être bien sympa. Je sais, c'est pas trop la saison des tomates, on l'a dit, mais vous pouvez faire avec des tomates confites.
Concassées, peut-être en boîte.
Ou tomates concassées. Voilà. Bon, après, et puis une petite salade de rouquette ou une petite laitue ou carrément une feuille de chêne. Hein, donc, on a encore des belles salades, on a des salades qui poussent dans nos jardins. Moi, ça prend bien le tournure, on va dire, des salades. Alors, je vous rappelle le coulis de tomate quand même. Hein, c'est relativement simple, mais c'est compliqué quand même. Donc, on va peler déjà et puis épépiner 6 tomates mûres à point. 9. J'ai lu à l'envers. Ce soir, je lis les chiffres à l'envers. Faites attention. Pour que ce soit plus facile à tailler après par la suite, vous allez tailler en croix la base et les plonger hein, 30 secondes dans une eau bouillante. Et puis, comme ça, la peau, elle se retirera très, très, très facilement. Alors, moi, perso, mon coulis de tomate, je le fais avec tofu. Voilà, je le fais avec les pots. Voilà, j'ai un mixeur qui est assez puissant pour tout mixer. Mais par contre, je sais que ma maman, elle a des problèmes d'intestin, donc il faut peler et pépiner les tomates. Donc je fais attention quand elle est. Donc si vous avez les tomates concassées en boîte, vous remplacez vos 9 tomates bien mûres par une boîte de tomates concassées, hein. Ça suffit, hein, 400
grammes.
Ou
tomates entières, mais en boîte, ça
oui,
marche,
oui, oui.
Elles sont déjà pelées.
Oui, elles sont déjà pelées, mais elles ne sont pas forcément épépinées. Donc, il faut faire attention.
Ah, t'as raison.
Ouais, donc il faut faire attention. Voilà, donc on fait chauffer 6 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole. On ajoute les tomates qu'on a pelées et pépinées. Et puis on va les 3 gousses d'ail, 3 gousses d'ail écrasées, les 6 feuilles de basilic, et puis une cuillère à soupe de sucre. Et tout ça, on va le faire réchauffer. On va saler, poivrer, on va couvrir, on va laisser mijoter pendant 20 minutes à petit feu. Et une fois que les 20 minutes sont passées, et ben vous allez pouvoir mixer dans un mixeur, bien évidemment, le coulis plus ou moins fin, finement, hein, selon le goût. Moi, j'aime bien quand c'est très très fin. Voilà, comme ça, c'est plus sympa. Alors, vous pouvez le conserver très facilement en bocaux stérilisés ou au congélateur dans les bacs à glaçons, en portionnant. Comme ça, si vous avez besoin d'un coulis en hiver, eh ben vous l'avez tout fait. Voilà, donc c'était ma petite astuce et ma recette supplémentaire de la soirée. Voilà, mais écoutez, on se retrouve tout de suite après une pause pour le plat. À tout de suite.
Parc Babyland Amiland, 34 attractions.
Non. Maintenant, c'est Parc Winoland.
Parc Winoland.
Parc Winoland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne.
Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeot. Winoland.fr.
Winoland.fr.
Winoland.fr. Winoland, la magie de l'amusement.
En famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt. Peut-être que la mer se sera évaporée. Peut-être que on essaiera de changer d'air. Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire.
Peut-être que on a déjà perdu le combat. Peut-être que on aura tous une puce dans le bras. Peut-être que plus personne dira le mot merci. Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie.
Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière.
Dernière clope pour un dernier souci, un dernier anniversaire pour une dernière bougie, une dernière ensemble, une dernière avec toi, une dernière nouveauté, une dernière première fois.
T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu, c'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure. On n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli. Dis-moi qui croire, si même l'espoir croit pas en lui. Tout est petit du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge. Je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante.
Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière.
Vous n'avez pas des os en verre, vous pouvez vous cogner à la vie.
Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt?
Ça peut pas être la dernière, 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 dernière.
ça peut pas être la dernière.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour le plat principal, donc la salade de pommes de terre et coquillages. Alors Nathalie, j'aimerais que tu nous parles des différents coquillages que l'on va utiliser dans cette recette. Donc par exemple la coque et la moule dans un premier temps.
Alors pour la coque, de son nom, cerastoderma, ça vient du grec keraste et derma, littéralement peau cornée. C'est un genre de mollusque bivalve vivant dans la zone de balancement des marées et appelé coque ou bucarde. Et dans les pays francophones, la coque commune est la plus consommée. Il s'agit des coquillages fouisseurs et filtreurs qui vivent à peine enfoncés dans le sable ou la vase. Deux siphons très courts permettent à la coque d'entretenir avec l'eau de mer environnante un courant d'eau, assurant la respiration et l'alimentation. Les coquilles des coques ont une forme de cœur, sont couvertes de côtes et présentent une couleur blanche, parfois légèrement striée de brun ou de noir. Alors, les stries foncées de la coquille marquent plus ou moins fidèlement les hivers ou des arrêts de croissance. Elles renferment et protègent l'animal qui a la taille d'une petite noix blanche, charnue et un peu ferme, munie d'une petite crête orange. Le corail des moules, les Mytilida, anciennement Mytiloida, plus communément appelés moules, constituent un ordre de mollusques bivalves. Ces espèces sont équivalentes et très inéquilatérales, c'est pas évident tout ça. Leur forme allant du triangulaire au flabelliforme, dépourvu de dents de charnière. Les crochets se trouvent à l'extrémité antérieure, le ligament est développé, mais les muscles adducteurs sont vestigiaux. Trois espèces sont principalement exploitées en mytiliculture même, et consommées, la moule commune sur les côtes de l'océan Atlantique et de la Bretagne, dans tout le nord de l'Europe ainsi qu'au Canada, la moule méditerranéenne, donc sur la côte de la mer Méditerranée, et de l'océan Atlantique, notamment en Espagne et au Portugal, et Mytilus platensis sur les côtes du Chili. Alors les bancs de moules, qu'ils soient naturels ou exploités, sont nommés les moulières.
Pris encore plein de choses grâce à toi, Nat. Alors, si un jour vous allez à la mer et que la mer s'est retirée, alors plutôt en Bretagne ou en Normandie, vous pouvez aller à la pêche aux coques et c'est très facile, on en trouve très facilement. Avec un filet dans lequel on ramasse les crevettes grises, vous pouvez très bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une épuisette, mais c'est certainement pas une épuisette, c'est il y a une espèce de râteau devant, et le filet est en forme de poche, et ça D'accord. permet de ramasser les coques et de ramasser les crevettes grises qui sont en fin de compte à la
dans
surface.
Dans le sable aussi.
Pêche à crevettes. Alors il faut aller. Moi j'allais avec les enfants au moins jusqà mi-genou. Mais c'est sympa. Après vous en avez qui mettent les cuissardes, qui vont beaucoup plus loin. Mais quand il faut soulever le filet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Pour la pêche à la moule, vous pouvez aussi aller mais dans les rochers cette fois-ci. Et vous pouvez en trouver donc dans des endroits où c'est assez rocheux, et ben les moules elles s'y mettent. Donc c'est pas forcément. Alors vous en avez deux façons. Vous avez les pleines mers, et puis vous en avez certaines qui sont faites dans des lacs salés. Voilà. Donc vous en avez deux sortes. Donc quand en pleine mer, c'est faut attendre que la mer se retire. Et puis c'est des gros poteaux. Et quand c'est sur des lacs salés, en fin de compte, elles sont dans des pochons et où ils ont refait plus ou moins les bouquets, on va appeler ça des bouquets, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle. Mais enfin bon, voilà, j'avoue que les moules, elles sont... Là, on a fait une salade, mais vous pouvez très bien faire la recette. C'est exactement là, c'est pas loin d'être la même que les moules marinières. On est dans le même esprit. on va dire, sauf que là, on a tout mélangé, les pommes de terre primeur et les coquillages. Alors, on va revenir à nos, tout à l'heure à d'autres coquillages. Tu nous en parleras tout à l'heure après la fin de la recette, si tu veux bien, hein, parce que on a quand même les palourdes et les praires dont on n'a pas connu, qui sont peu connus, très peu connus.
Moi, je connais parce que j'ai vécu
mais
en Bretagne.
Mais oui, toi, tu connais, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Ouais. Et pourtant, ce sont des coquillages qui sont très, très bons. Alors, donc, notre plat principal, donc, c'est une belle salade de pommes de terre primeur et puis de coquillages. Pour ça, vous aurez besoin de 500 g de pommes de terre primeur, évidemment, 10 centilitres de vin blanc, 3 branches de céleri, 500 g de coquillages. Donc si tu, tout à l'heure, tu parlais en début d'émission en surgelé, ben, prévoyez pas 500 g de surgelé. C'est 500 g sans les coquilles, donc grosso modo, c'est peut être 300 g.
Hein, ouais, j'allais dire la moitié, mais ouais.
Non, on n'a pas moitié
De coquilles.
De coquilles, non, je pense pas. Enfin, moi, je me suis jamais amusé.
Entre 250 et 300.
Après, voilà, plus il y en a, meilleur c'est. Hein, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. De toute manière, ça ne changera rien à la cuisson et à la fabrication. Mmh. Et il y aura besoin donc de 200 g de crevettes cuites, 2 échalotes, un oignon, un citron, un filet d'huile d'olive, une cuillère à café de curry, 2 branches de persil, et puis plat, c'est mieux. C'est celui qui ressemble à la coriandre, voilà. Mais au parfum, c'est vraiment, on sent bien la différence. Du poivre et du sel, et puis côté matériel, on aura besoin de 2 faitous, un saladier, on a dit tout à l'heure, un couteau, une passoire et une râpe. Voilà, pensez qu'il vous faudra quand même 45 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Ouais, cette fois, c'est un peu long, mais c'est tellement bon et le résultat est super sympa. Voilà, donc on va commencer déjà par laver les pommes de terre et les mettre dans un faitout avec de l'eau. Attention à ne pas enlever la peau. Et on met les pommes de terre, on met les pommes de terre quand l'eau frémit, on ne les met pas au départ. Et on va compter 20 minutes de cuisson. Une fois que ces 20 minutes de cuisson sont faites, on les égoutte et on les laisse refroidir gentiment. Pas la peine de les mettre au frais. Voilà, on ne veut pas qu'elles soient froides au moment de la préparation. Donc plus vous le ferez moins tôt, meilleur sera. Donc après, c'est à vous qui voyez, c'est si vous avez le temps, mais c'est une salade qui peut se manger tiède ou froide, c'est comme on le sent. Alors, on va éplucher et hacher les échalotes, l'oignon, couper en rondelles les branches de céleri et enfin, on va laver les coquillages. Et puis, dans un faitout avec un peu d'huile d'olive, on va faire revenir 3 minutes, hein, vraiment très léger, les échalotes, l'oignon et le céleri. Voilà, en remuant et puis pendant 3 minutes, on les fait légèrement roussir à feu doux. Au bout de ces 3 minutes, vous allez ajouter les coquillages et que vous allez saupoudrer de curry, arroser de vin blanc et puis vous allez laisser cuire à feu doux tout en remuant de temps en temps pour que les coquillages s'ouvrent. Et quand les coquillages sont ouverts en grand, c'est que la cuisson est faite. Voilà, donc on n'a pas de temps. C'est par rapport à l'ouverture des coquillages. C'est comme les moules. Comme les moules marinières, c'est une fois que la coquille elle s'ouvre, c'est que c'est cuit. Et c'est assez rapide, hein. 2-3 minutes, c'est assez rapide quand vous avez un bon faitout. Et puis, dans une passoire, on va les égoutter. Vous allez réserver le jus parce qu'on va s'en servir un petit peu plus tard et vous allez décortiquer, mais vous ne décortiquerez pas tous les coquillages, vous allez en garder quelques-uns entiers pour la déco et puis le reste vous allez décortiquer. Vous allez aussi décortiquer les crevettes, hein, parce que
c'est des roses, hein.
Oui, crevettes roses, mais crevettes, vous pouvez très bien mettre des crevettes grises, mais alors bon courage, hein, pour les décortiquer parce que c'est très très long pour 200 grammes.
Je les mange quasiment entières.
Voilà, donc dans une salade entière, ça va peut-être pas le faire. Donc,
non, mais les crevettes grises, la tête, la queue, c'est bon.
Voilà. non, non, les crevettes grises, on les garde pour l'apéro. Voilà, on va prendre crevettes roses normales, voilà. Et donc on continue, on a décortiqué tout ce petit beau monde, et dans un saladier, on va mettre les pommes de terre qui ont été égouttées, non pelées cette fois-ci, et on va les couper en quartiers. Donc on les coupe en quartes, en quatre. Puis on va décortiquer donc les coquillages, et on va mettre les coquillages, on va mettre les crevettes qui ont été cuites et décortiquées. Et on va rajouter, on va zester et râper le citron. Et puis, une fois qu'il est zesté, on va le presser pour récupérer son jus, et on va arroser notre salade. Et dans une casserole, on va remettre notre jus de cuisson des coquillages à feu vif, et puis pendant 2 minutes à feu vif, de façon qu'il réduise au maximum. Et on va déglacer avec un petit jus de citron, et on va le laisser refroidir légèrement, et une fois qu'il sera légèrement refroidi, et on va le verser sur la salade, et on va mélanger délicatement pour éviter que les pommes de terre s'écrasent. Ouais. Normalement c'est de la primeur, et si vous avez respecté la cuisson, elle ne devrait pas s'écraser, mais voilà, donc vraiment délicatement. Vous parsemez de persil ciselé. Vous rajoutez un petit peu de zeste de citron par-dessus, du sel, de la fleur de sel, vous savez, c'est vraiment, vraiment une petite pincée, et puis du poivre, et puis voilà, votre salade, elle est prête à déguster. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, elle peut être consommée, dégustée ou tiède ou froide, c'est comme on veut. Voilà, moi je trouve que c'est un avant-goût des vacances au bord de la plage. Je sais pas ce que t'en penses. Alors on peut s'en servir aussi pour un pique-nique, ça peut être sympa comme salade, c'est une fraîcheur. Oui. Voilà, un pique-nique au bord de la plage, voilà, on aura fait le tour. Alors tu dois nous parler maintenant de la praire et de la palourde.
Alors la praire commune, c'est une espèce de mollusque bivalve de la famille des Vénéridés, et c'est un fruit de mer répandu du commerce alimentaire, variante des coques, palourdes et amandes de mer. Cette espèce fouisseuse, jusqu'à 100 mètres de profondeur, est hôte des fonds côtiers sablo-vaseux du bas de l'étage infralittoral. Elle a une coquille épaisse et qui valve ornée de stries concentriques très marquées, dont la couleur varie du blanc jaunâtre au blanc grisâtre. Elle est présente en mer Méditerranée, aussi dans l'océan Atlantique et aussi dans la Manche, très commune jusqu'à 50 mètres de profondeur. La palourde, elle, c'est un nom vernaculaire ambigu en français qui désigne divers mollusques bivalves marins, avec en particulier avec en particulier palourde commune ou européenne, palourde japonaise, les plus courantes en alimentation. On retrouve de plus en plus sur le littoral français, principalement en Atlantique, la palourde introduite en France dans les années 1970 dans un but d'élevage, la vénériculture, car sa croissance est plus rapide. Ces mollusques introduits se sont reproduits naturellement et les larves planctoniques se sont disséminées aux environs. Et désormais acclimatées à l'écosystème atlantique, les palourdes japonaises forment aujourd'hui d'importantes populations sauvages en rade de Brest, dans le golfe du Morbihan et dans les tracts du Croisic autour de l'île de Noirmoutier, dans le bassin de Marraine-Oléron, et dans le bassin d'Arcachon. Ce mollusque sédentaire peut se déplacer d'environ 6 mètres maximum par mois. C'est un animal fouisseur, il préfère les fonds vaseux et sableux, de préférence avec beaucoup de cailloux, pour s'enfuir généralement de 6 à 15 cm de profondeur pour échapper à ses prédateurs.
Nat, si vous baladez sur l'île de Noirmoutier ou au Croisic, ou encore dans la baie de Penbron qui est pas loin du Croisic, toujours avec le fameux râteau ou le fameux filet de pêche comme la coque, vous allez en trouver. Voilà, merci Nathalie pour toutes ces informations sur ces coquillages qui sont parfois peu connus, mais superbement bons quand on sait les apprécier. On se retrouve tout de suite après la pause pour le dessert cette fois-ci. You say you wanna taste them, bottle me up.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la troisième partie de notre émission, à savoir le dessert, ce que Nathalie affectionne particulièrement dans le repas. Et ce soir, ce sera un clafoutis aux abricots et aux amandes. Alors Nathalie, une info sur l'abricot pour le moment.
Oui, l'abricot, c'est un fruit d'un arbre généralement de petite taille, appelé abricotier, de la famille des Rosaceae, c'est tout ça, c'est latin. Le nom scientifique de l'abricotier est Prunus armeniaca, qui veut dire prune d'Arménie. Il appartient au sous-genre du Prunus, section Armenacea, avec les quatre autres abricotiers du monde. L'abricot est un fruit charnu, une drupe de forme arrondie, possédant un noyau dur contenant une seule grosse graine ou une amande. La chair est sucrée, peu juteuse, jaune argenté et ferme. La teneur en quarantaine ou en provitamine A est élevée, c'est elle qui donne la couleur orangée, et l'abricot est riche en pectine qui se gonfle facilement d'eau et qui lui confère son côté moelleux. L'abricot se sépare aisément en suivant le sillon médian. La peau veloutée donne la couleur, dont la couleur peut aller du jaune au rouge et parfois piquetée de taches de rousseur. Et se mange. La couleur rouge n'est pas gage de maturité. Le degré de maturité est apprécié par le parfum et la souplesse du fruit. Et l'abricot mûrit après sa cueillette. Il est climactérique.
Voilà. Ah, donc merci Nat. Donc là, tu as appris encore deux choses.
Oui.
Hein, qu'on pouvait... Alors, il se cueille pas cru, pas vert non plus, hein, il se cueille.
Mais ferme.
Ferme, voilà. Mais il va se mûrir après sa cueillette. Ouais. Voilà, donc c'est très délicat comme cueillette parce qu'il ne faut pas se planter non plus. Alors, voyons maintenant notre recette pour ce clafoutis. Donc, on aura besoin de 500 g d'abricots, de 30 g de beurre, 40 centilitres de lait, 100 g de farine, 100 g de sucre de canne, 30 g de poudre d'amande, 30 g d'amande effilée, et puis matériel, on aura besoin d'une passoire, d'un couteau, d'une casserole, d'un saladier, d'un fouet et d'un plat à gratin, bien évidemment. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 20 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson au four. Voilà, je vais y arriver ce soir. Alors, on va commencer déjà par laver les abricots et puis les couper en deux. Donc, Nathalie, tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une espèce de fente. Ben, vous allez couper dans ce sens-là et puis retirer les noyaux. Alors, si vous les mettez dans le jardin, ils ne vont pas pousser comme ça.
Hein, malheureusement.
Et par contre, si vous avez envie de faire de la confiture, gardez les noyaux, vous les cassez avec un marteau et les amandes, vous pourrez les mettre dans votre confiture d'abricot, ce qui donnera un peu d'amertume à votre confiture d'abricot. Voilà, ceci en passant. Ensuite, on va beurrer notre plat gratin et puis disposer les oreillons d'abricot, la face bombée sur le fond. On est d'accord, la face bombée sur
d'accord.
Le fond. Et, de toute façon, que ça fasse plus joli. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien ce côté-là. Voilà, c'est joli. Mais de l'autre côté aussi, c'est joli. Mais voilà, enfin, après, c'est ma recette. On fait ce qu'on veut. Voilà. Le sens, peu importe. L'important, c'est que ça fasse joli après la cuisson. On va préchauffer notre four à 200 degrés, donc la thermostat c'est à peu près 7-8, tout dépend des fours. On va faire fondre le beurre, alors moi je le fais au micro-ondes parce que c'est plus rapide par exemple, hein, mais bon, vous pouvez le faire dans une casserole, mais faites attention dans une casserole à ne pas le faire roussir. Hein, on dit qu'il faut le faire fondre. Et puis dans un saladier, on va fouetter les œufs, le sucre pour faire blanchir. Hein, je vous rappelle que faire blanchir, c'est la préparation œuf-sucre devient un petit peu jaune pâle. Une fois que cette préparation est faite, on va y ajouter à cette préparation la farine, les poudres d'amandes, en continuant de battre pour empêcher la formation des grumeaux. Ensuite, une fois que vous avez votre pâte qui est lisse, vous allez incorporer le beurre fondu et refroidi, parce qu'on ne verse pas dans cette préparation du beurre chaud, sinon ça va cuire vos œufs et ça, vous aurez là pour le fait des grumeaux. Et vous allez y rajouter aussi, incorporer le lait et vous allez fouetter vivement, puisque c'est pas très très épais, hein, c'est une pâte à clafoutis encore une fois. Et vous allez donc fouetter vivement pour lisser la pâte. Une fois que la pâte est bien lisse, et ben vous allez la verser sur les abricots et vous allez parsemer votre clafoutis d'amandes effilées. Et vous allez enfourner et faire cuire pendant 30 minutes. Alors, une fois cuite et bien colorée, vous allez laisser tiédir avant de déguster, parce que si vous le mangez à la sortie du four, l'abricot reste très longtemps chaud et vous risquez de vous brûler la langue et les lèvres. Donc voilà, donc pour les gourmands, vous pouvez servir ça un petit coulis de fruits rouges. Ça peut être très sympa ou sans rien, mais enfin un coulis de fruits rouges, c'est pas désagréable. Voilà, encore un dessert facile et puis rapide à réaliser et surtout de saison. Hein, on ne fait pas un clafoutis en plein hiver, sauf si on a congelé ses fruits et que ça peut être bien. Donc si sur le marché, les abricots vont arriver et s'ils sont à des prix intéressants, moi je vous conseille de les laver, d'enlever les noyaux, de les couper en deux et de les mettre au congélateur pour cet hiver. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Alors Nathalie, une petite histoire sur l'abricot. Parce qu'il a une grande histoire, cet homme, cet abricot, ce fruit-là. Alors, dis-moi.
Alors, l'abricot, c'est comme la pêche, c'est un fruit à noyaux du genre Prunus, originaire de Chine. Des abricotiers sauvages poussent dans la chaîne des Tianshan d'Asie centrale et dans diverses régions de Chine, ainsi qu'en Corée et au Japon. L'abricotier est cultivé en Chine depuis 2000 ans. En raison de cette culture ancienne de vastes zones à l'ouest et au nord du territoire chinois, il est difficile de déterminer sa distribution d'origine exacte, car on ne peut savoir quelles sont les formes vraiment sauvages et celles échappées des cultures. Alors, toutefois, les dernières études de la structure génétique des populations permettent à Yuan, en 2007, d'affirmer que le centre de diversité de l'abricotier se trouve dans le Xinjiang. Quand c'est pas du latin, c'est du chinois. Ces ressources génétiques qui sont très abondantes. L'introduction de l'abricotier au Proche-Orient s'est faite à travers l'Iran. Abricot se dit en persan Zerdalou, et de l'Arménie aux alentours du 1er siècle avant notre ère. Les Grecs, puis les Romains, ne prirent connaissance de l'abricotier qu'à cette époque. Inconnu du temps de Théophaste, ce n'est qu'au 1er siècle qu'on trouve les mentions de ce fruit dans les textes. Le médecin grec Dioscoride l'appelle Maion armenasignason, ce qui veut dire pomme d'Arménie, et Pline fait une allusion obscure à une variété portant le nom de précoce, je vous le dis en français. La dénomination en latin scientifique de Armeniaca a été utilisée la première fois par le naturaliste suisse Gaspard Bauhin. La croyance en une origine arménienne fut entérinée par Linné qui baptista l'espèce Prunus Armeniaca en 1753. D'après De Candolle, qui a les origines des plantes cultivées en 1882, ce serait le botaniste Joseph Dequesne qui serait le premier à avoir soupçonné l'origine chinoise de l'arbre. Il avait reçu des échantillons du docteur Brinschneider d'abricots sauvages cultivés aux environs de Pékin, deux fois plus gros et semblables à nos abricots. Au début de notre ère, quelques centaines d'années après son arrivée en Arménie, la culture de l'abricotier était bien établie en Syrie, en Turquie, en Grèce et en Italie. L'abricotier aurait été introduit en France par deux voies. D'une part en provenance d'Italie, par la vallée de la Loire, le roi René d'Anjou, qui hérita du royaume de Naples en 1435, ramena d'Italie ce fruitier dans sa région natale, où il prit le nom d'abricotier vers 1560, et d'autre part en provenance d'Espagne par le Roussillon. On ne sait pas quand l'introduction s'est faite, mais probablement entre le moment où Narbonne fut occupée par les Sarrasins, c'est-à-dire en 715, ou celui où le Roussillon fut rattaché à la couronne de France en 1659. Les descendants des abricotiers de la vallée de la Loire, cultivés aussi dans le Vaucluse et la vallée du Rhône, présentent les caractéristiques du filum européen, une amande douce, l'autofertilité et une faible exigence au greffage. Les descendants de la population d'abricots du Roussillon possèdent, eux, les caractéristiques du filum nord-africain, une amande amère, l'autostérilité et de fortes exigences en greffage. Et enfin, la culture de l'abricotier ne s'établira véritablement en France que 3 siècles plus tard. C'est à peu près à la même époque que les missionnaires espagnols l'implanteront dans le sud de la Californie, où il sera rapidement adopté.
Merci Nathalie. Il nous reste 4 minutes et nous avons pratiquement terminé notre émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... Alors, les abricots, je vous ai parlé tout à l'heure de l'abricot, de le surgeler. Alors, je vais vous expliquer, de le congeler.
Oui.
Je vais vous expliquer parce qu'il y a une façon de le faire. On ne le met pas en vrac. Donc, on les lave, on les s'essuie bien. Ça, c'est important.
Ouais.
On les coupe, on enlève le noyau. Donc, on les coupe par rapport à la fente. Hein. On enlève le noyau et on va les mettre à plat sur une plaque. Alors, moi, j'aime bien, je mets un linge sur ma plaque et je mets mes abricots. Donc, comme dans le clafoutis, c'est-à-dire la partie bombée sur ma plaque. Comme ça, on est d'accord. La partie bombée sur la plaque.
Ils tiennent ?
Oui, ils tiennent.
Alors, okay.
Ça bouge un petit peu et je mets ma plaque au congélateur. Une fois que c'est congelé, donc 24 heures après, j'enlève tout et comme j'ai mis un tissu, ben ça va pas s'accrocher à la plaque, ça s'accroche au tissu et c'est très facile à enlever et je mets ça en sac. Voilà. Et comme ça, ils sont vraiment bien congelés et ils ne sont pas congelés entre eux. Si vous les mettez congelés entre eux, ça va être très compliqué.
Ah,
voilà.
D'accord.
Tout simplement.
Et moi, ça, c'est ce que je fais.
N'importe quel fruit, vous faites ça.
D'accord.
Et pour les cerises, vous faites ça. Et quand vous avez besoin de cerises pour faire un clafoutis en hiver ou un clafoutis d'abricots en hiver, eh ben, vous pouvez très bien faire ça. Mais encore une fois, utilisez cette astuce avec les... avec le tissu. Moi, quand j'en congèle un produit, quel qu'il soit, je mets un tissu en dessous, entre ma plaque et la chose à congeler. Comme ça, quand j'enlève le tissu, comme c'est filandreux, tu sais, ça fait des... Enfin, c'est des fils, hein, donc... Et c'est plus facile à enlever que la plaque en elle-même. Hein.
Voilà. Bah, que la plaque ou mettre... Peut-être un papier sulfurisé, je ne sais pas si ça aura le même...
Effectivement, c'est un papier sulfu,
En tout cas, pas de papier absorbant, parce que c'est sûr que là, ça va se
mort.
Coller.
Ah, ouais. C'est mort. Voilà, donc ça, là, c'est en pleine saison, donc allez-y, amusez-vous à faire ça. Vous pouvez faire des confitures. Donc moi, perso, la confiture, je mets 500 grammes, alors je vous donne ma recette, hein. Je vous mets 500 grammes d'abricots, et 500 grammes de sucre. Je mets pas de jus de citron puisque l'abricot, on l'a vu tout à l'heure, tu l'as dit, contient de la pectine.
Oui.
Donc je vais tranquillement les faire tout pendant 24 heures, les faire macérer ensemble et vous allez alors je vais remuer, je fais ça le soir pour que le lendemain le lendemain, on va pas dire 24 heures, c'est 12 heures. Le lendemain, vous allez voir le sucre a complètement fondu. Donc l'idée, c'est de mettre les abricots d'abord et le sucre par-dessus. Et vous remuez l'ensemble et vous le couvrez ou d'un film plastique ou d'un torchon et vous le mettez au frais. Et une fois le lendemain, vous pourrez la cuire. Vous la cuisez à peu près 30 à 45 minutes. Donc le test, hein, c'est la cuillère et dans la cuillère en bois et que vous déposez sur une assiette creuse. Et si le jus coule, c'est qu'elle doit être recuite. Si le jus la cuillère vous avez déposée sur les quelques gouttes vous avez déposées sur l'assiette ne coule pas, c'est qu'elle est prête. Voilà.
D'accord.
Et vous pouvez mettre ces fameuses amandes. Donc vous coupez, je sais pas, une dizaine, vous cassez avec un marteau parce que c'est assez puissant hein, le noyau. Vous cassez avec un marteau le noyau, vous prenez l'amande à l'intérieur et vous le rajoutez dans votre confiture au moment de la cuisson.
Entière ?
Entière ou coupée, comme vous voulez, de toute manière.
Vous ne savez pas que ça se mangeait ?
Alors ça ne se mange pas. Ça va te donner un parfum amer.
Ah, mais du coup.
Ça ne se mange pas.
Quand tu mets en pot, il faut le retirer alors.
Non, tu peux la laisser à l'intérieur.
Mais il faut dire aux gens de ne pas le manger.
Voilà, tout D'accord. à fait. Moi, perso, je l'enlève. Mais si vous en avez mis une dizaine et que vous n'avez pas trouvé vos dizaines, ça va vous inquiéter. Voilà. Donc, faites ça. Alors, une petite astuce pour mettre les amandes, vous pouvez prendre une gaze qu'on utilise pour les pansements. Hein, et vous mettez vos amandes cassées à l'intérieur. Vous mettez un élastique ou une tige en fer de façon à maintenir votre petit pochon et vous cuisez comme ça. Comme ça, l'amertume de vos noyaux rentrera dans votre confiture, mais pas les noyaux. Voilà. Okay. Donc, c'est encore des astuces que je peux vous donner. Voilà, ce sont des astuces de grand-mère. Hein. Moi, j'avais une grand-mère et une maman qui faisaient des confitures. Donc, j'ai pris d'elles. Voilà. Puis, j'ai fait un petit peu à ma sauce aussi. Voilà. Bah, écoutez, vous voyez, le temps de vous dire toutes ces petites astuces encore aujourd'hui. Eh ben, c'est la fin de l'émission déjà. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.
La semaine prochaine, oui.
Oui, bon, avec une éditation. Ah bah oui, peut-être pas.
Non, alors, je pense que
ouais, ça sera un. Alors,
on vous tiendra informé, mais il est fort probable qu'on vous fasse une petite rediff. On va voir
comment on peut s'organiser.
Ouais,
voilà, c'est de ma faute parce que je ne serai pas là, donc il y aura peut-être une rediff effectivement des meilleurs moments ou d'une émission la meilleure.
D'une émission, je pense, ce sera une émission, on verra laquelle.
Bon, bah écoutez, vous choisirez puisque moi je serai absente.
Ouais.
Voilà, on se retrouve quand même la semaine d'après encore.
Oui.
Et puis on vous souhaite un très très bon appétit, une excellente soirée et puis prenez soin de vous.
Ouais.
Bonne soirée.
Bonne soirée.